Attends, c'est du verre quoi? Du verre canard?
Si vous voulez, le verre des verres correspond, comme par hasard, au verre de l'islam.
Ou un verre sapin?
Bonsoir, Michel Sapin.
Verre émeraude. Ou peut-être verre bouteille.
Il n'y a plus rien à boire.
Du verre pomme? Ah, je sais. Verre kaki.
Calmez-vous! Et calmez-vous!
Non, non, je vois. Je sais.
Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir.
Mais attendez, vous,
non,
vous trouvez
oui.
ça normal?
C'est du verre bouteille!
Allez-vous cultiver scientifiquement?
Je crois que nous n'avons pas tous ici bien compris que nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème.
Retrait, climat, même combat.
Bonjour, c'est Lucie, je suis journaliste indépendante en Bretagne et chaque mois sur Canal B, Radio Boa et Deezer, je vous parle d'écologie pendant une heure. Un programme un peu comme un porte-voix pour mettre en lumière celles et ceux, chercheurs, citoyens, élus, médias, qui font vivre les transitions écologiques et sociales en mode déter. Et alors que le sujet recule dans les médias, eh bien on continue à en parler dans les médias indépendants et à l'antenne des radios associatives. Actualité, interview, reportage, mais aussi ressources, agenda et musique, c'est le programme de Vers des Terres qui va essayer d'échapper au vers nausé pour ce mois-ci. C'est ce que m'inspirent les actualités récentes. Sur le meurtre de Quentin, pour y revenir, ce jeune militant d'extrême droite tué par, a priori, des militants antifascistes le week-end dernier, j'ai aimé lire et entendre les voix du politologue Clément Viktorovitch, qu'on peut retrouver sur sa chaîne YouTube, des journalistes Vincent Hédin, qui a lui un compte LinkedIn sur lequel il s'exprime, et aussi Cyril Lacarrière du côté de France Inter. Ce dernier nous explique que les médias Bolloré, je cite, ont divisé le pays en deux et c'est CNews qui a fixé la ligne de fracture. J'ajouterais quand même qu'une grande partie des médias, y compris sur le service public, ont plongé tête baissée et suivi la même logique, information en continu oblige. Les médias, eh bien justement, on va en parler dans l'émission du jour. Il sera en effet question de ceux qui jouent la carte de l'indépendance pour nous parler d'écologie autrement, en l'occurrence avec à mon micro des journalistes de Social Terre et Splend. Moins de Bolloré, plus de médias indés, c'est l'idée. Et avant de se lancer avec l'info du jour, vous avez peut-être entendu parler des accusations portées contre Olivier Legrain. Je dois en parler puisque l'émission est sur le thème des médias indépendants. Ce millionnaire français, présenté comme mécène de gauche, et a été le sujet d'une enquête de Mediapart parue fin janvier. L'ancien patron d'industrie est accusé par la responsable d'un média de lui avoir imposé des avances répétées alors qu'elle cherchait des financements. Une plainte a été déposée. D'autres femmes témoignent du malaise suscité par une familiarité trop grande. Cette enquête, elle a bousculé le milieu des médias indépendants alors qu'un projet de maison des médias libres était sur les rails, financé par Olivier Legrain. Certains médias ont déjà quitté le bateau, à l'image de La Déferlante ou de Vers le Média. D'autres réfléchissent à la poursuite du projet, mais sans le généreux mécène. À l'image de Politis qui tire la leçon suivante, intéressante, je cite, « On ne bâtit pas un projet d'émancipation sur une dépendance structurelle à un homme puissant. » Eh bien, on reste avec Mediapart pour cette info du jour. Mediapart, qui on le rappelle est uniquement financé par ses abonnés et qui comprend un pôle écologie au sein de sa rédaction. À Mayotte, les grands projets à marche forcée, c'est le titre d'un article écrit par le journaliste indépendant Rémi Carayol. Mayotte, on resitue, département français situé dans l'océan Indien, au nord de Madagascar. Rémi Carayol, il nous raconte comment, donc à Mayotte, la loi promulguée après le passage du cyclone Chido en 2024 se matérialise aujourd'hui par deux projets d'aménagement passés en force. Le premier, c'est un projet de nouvel aéroport, et non plus d'agrandissement, comme il en avait longtemps été question, sur des terres qui servent essentiellement à l'agriculture. Un collectif qui réunit des organisations de défense de la nature et des représentants du monde agricole inquiets, tout ça appuyé par une garante du débat public, demande à être entendu par les pouvoirs publics et alerte sur les conséquences dévastatrices qu'un tel projet ferait porter sur la biodiversité, mais aussi sur la ressource en eau. Le deuxième projet, il est justement censé apporter une solution à la crise de l'eau. Il s'agit d'une usine de dessalement, option considérée comme une aberration écologique par les principales associations environnementales de l'île, ainsi que par plusieurs scientifiques. Là encore, les autorités publiques font le minimum en matière d'enquête publique et d'études d'impact. C'est légal, nous expliquons. Et le préfet reste sourd aux citoyens qui mettent en avant des alternatives à une telle usine, comme l'amélioration du réseau d'eau. Je vous laisse lire l'article dans son intégralité en ligne sur mediapart.fr. On rappelle qu'il y a des petits tarifs pour vous abonner si vous êtes en situation de précarité. Et puis, c'est le moment maintenant de passer à la première interview de l'émission. Elsa Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la rédactrice en chef de Social Terre, un média indépendant qui parle entre autres questions d'écologie et dont on va parler pendant un petit moment avec cet entretien. Peut-être commencer avec des présentations un petit peu plus longues et parler de votre parcours qui vous a amené depuis 2024, je crois, à être rédactrice en chef de ce média-là.
Alors, je suis arrivée à Social Terre comme salariée en septembre 2023. Et avant ça, je travaillais pour le titre depuis 2021 comme indépendante. Et il y a eu un départ de l'ancienne équipe. Et à ce moment-là, on m'a proposé de venir d'abord comme rédac chef adjointe, puis comme rédac chef en titre à partir d'avril 2023. Donc ça va bientôt faire 2 ans. Que je porte le sceptre et que je dirige cette rédaction.
Installée à Paris ?
La rédaction est à Paris, donc elle est dans le 11e arrondissement. Et puis moi, je vis entre la Bretagne et Paris parce que je ne suis pas réussi à me résoudre à aller vivre à la capitale. Voilà.
Pourquoi vous êtes dans un média indépendant aujourd'hui ? Est-ce que c'était un projet qui était de longue date dans votre tête et où il a fallu du temps pour l'installer ? Vous n'avez pas commencé dans des médias indépendants ?
Non, alors j'ai même pas commencé dans la presse parce que avant ça j'ai fait d'autres métiers. J'ai travaillé dans l'associatif culturel, j'ai été enseignante dans le secondaire et puis j'ai commencé à piger. Peut-être rappeler ce qu'est la pige, donc les journalistes indépendants, pour un grand nombre d'entre eux, travaillent à la pige, c'est-à-dire sont payés à l'article. Donc c'est un statut qui est précaire et qui n'est pas très rémunérateur. Et donc pendant quelques années, mon modèle, ça a été de partager entre de la pige pour des médias qui, on va dire, vraiment étaient alignés avec mes convictions, avec les sujets que j'avais assez viscéralement envie de traiter. Et puis des médias plus classiques, comme Ouest France, par exemple, dans lequel j'ai fait de nombreux remplacements. Et ça a été aussi une école parce qu'on fait du reportage, on est sur le terrain, on rencontre des gens de tous les milieux, dans toutes les situations. Donc voilà, c'était un peu un équilibre économique d'avoir un pied dans un gros média comme Ouest France et puis de pouvoir quand même écrire pour Social Terre, par exemple.
La revue, le magazine Social Terre, donc, dans lequel vous êtes rédactrice en chef aujourd'hui, a été créé il y a 13 ans. Vous êtes arrivée il y a donc quelques années. Comment se porte le projet aujourd'hui ? On sait qu'il y a parfois des équilibres fragiles dans les médias indépendants à tenir sur la durée.
Alors nous, on a la chance de pas se porter trop mal. Alors, pour donner un ordre d'idée, parce que souvent les gens ne savent pas très bien quels sont les modèles de la presse indépendante en termes de salariés à plein temps. Un magazine comme Social Terre, c'est l'équivalent d'une boulangerie, parce qu'on est 6 salariés à plein temps. Et autour de nous travaillent de très nombreux journalistes indépendants, des illustrateurs, des illustratrices, des photographes. Et on a la chance, parce que le papier ne se porte pas très bien en France, mais nous, on a la chance d'être sur une pente douce plutôt ascendante. Et là, on en parlait hier avec l'équipe, on a atteint les 8500 abonnés, ce qui n'est pas colossal, mais pour nous, ce qui est un record. Et donc, on est très content de ça. Ça veut dire que nos propositions éditoriales, elles rencontrent un public et ça nous porte.
Sur la périodicité, vous faites le choix d'une parution bimestrielle tous les 2 mois et puis avec des hors-séries. Là, j'ai sous les yeux le hors-série du printemps qui est consacré à la résistance au nouveau fascisme. On va en parler tout à l'heure. Ce choix de parution, il était lié au modèle économique. Enfin, c'est ce qui vous permet de prendre le temps de traiter des sujets longs et de trouver votre lectorat aussi plutôt qu'avec quelque chose de mensuel.
Alors, il y a l'idée de proposer effectivement quelque chose qui est complémentaire de ce que font nos confrères et consoeurs, par exemple de reporters sur les sujets écologiques, mais aussi, on va dire, les journalistes qui travaillent dans des rédactions plus classiques au Monde, à Libé ou à Mediapart, qui couvrent aussi les sujets écologiques au quotidien. Nous, on propose un pas de temps, effectivement, qui n'est pas celui de l'actualité. On a le temps de se poser sur les sujets, de les creuser. On construit chaque numéro autour d'un dossier de 30 pages où on va vraiment s'attarder longuement sur un sujet.
Votre ligne éditoriale qu'on retrouve explorée à travers 70 numéros au compteur pour Socialterre, cette ligne éditoriale, c'est la suivante, c'est d'analyser les transformations écologiques, sociales et politiques contemporaines, en tout cas formulées comme ça sur votre site en ligne et notamment à travers un manifeste. L'écologie, c'est donc une des thématiques que vous abordez parmi d'autres et peut-être d'une façon particulière, transversale, on peut le dire comme ça ?
On peut le dire comme ça, pourquoi pas. Disons qu'il y a de l'écologie dans tous les numéros de Socialterre. Et simplement, peut-être à la différence du traitement que peuvent choisir d'autres médias, nous, l'écologie, on essaye de ne pas en faire une rubrique séparée et quelque chose qui serait à part des dynamiques sociales générales. On essaye d'ancrer notre écologie dans le social, de la penser dans les rapports de force, dans les inégalités qui structurent nos sociétés. Et donc, c'est peut-être là qu'on se positionne... avec le plus de constance, c'est qu'on essaye vraiment d'être au croisement, on va dire, des dynamiques de l'écologie politique dans la diversité des mouvements et des acteurs qui portent l'écologie, et de croiser ça avec les enjeux de justice sociale et de, voilà, de jamais penser les deux séparément.
Pour aboutir à un tel numéro conséquent, alors là, pour le hors-série, il s'agit de combien de pages ? Plus de 140 pages.
Ouais, on est à 148 pages sur un numéro comme ça, hors-série.
Quel travail en fait se cache dans les bureaux et que les lecteurs ne connaissent pas ? Et puis avec quelles questions est-ce qu'on doit dealer au quotidien quand on est rédactrice en chef d'un média indépendant ? On imagine qu'il y a plein de choses qui se croisent, que c'est un auto-dialogue interne important.
Alors, quel travail se cache derrière un numéro comme ça ? Ben, un travail acharné, hein, je ne vais pas mentir. On travaille beaucoup. Alors, comment on construit un numéro comme ça ? Ben, d'abord, on part du moment politique dans lequel on est et des inquiétudes qui nous traversent, d'abord comme journaliste et plus largement comme citoyen et citoyenne, quant au sentiment d'impuissance qui peut parfois nous habiter quant à, avec la montée en puissance de forces autoritaires, actionnaires racistes qui occupent de plus en plus d'espace dans les médias, qui menacent en plus directement non seulement le résultat des conquêtes sociales, qui menacent directement les acquis fragiles de protection de l'environnement, et qui menacent même les institutions démocratiques, comme on le voit aux États-Unis avec Trump et voilà les événements récents à Minneapolis, etc. Enfin, il y a de quoi être extrêmement inquiet. Et donc cette inquiétude, elle nous traverse et on essaye toujours, moi j'essaye toujours de concevoir des numéros comme des choses que j'aimerais lire. Je vais, quand on choisit des interlocuteurs et qu'on fait des papiers, c'est aussi parce qu'on a envie d'avoir des réponses, d'être éclairé par des gens qui pensent en profondeur ces sujets. Donc c'est pour ce qui nous emmène sur ce type de sujet. Peut-être plus concrètement sur le métier, comme on est un média qui ne couvre pas l'actualité chaude, alors déjà on lit énormément nos confrères et consoeurs, puisqu'on fait un travail de veille sur les sujets qui nous intéressent, sur l'actualité politique en général, sur les mouvements sociaux, sur les débats d'idées à gauche. Et on est aussi extrêmement nourri par ce que publient les éditeurs et notamment les petites maisons d'édition indépendantes qui nourrissent la pensée écologiste, qui nourrissent la pensée à gauche. Et donc on reçoit des tas de livres. C'est Noël presque toutes les semaines à Socialterre.
Vous avez une grande bibliothèque ?
On a des grandes piles de livres qui débordent sur les bureaux. Et donc dans ce Capharnaüm, on essaye de trouver les voies et les idées qui nous semblent neuves, qui nous semblent éclairantes. Donc c'est une partie importante de notre travail de digérer cette production éditoriale qui est foisonnante, qui est passionnante, et d'essayer de s'en faire un peu les traducteurs, les vulgarisateurs pour donner envie aux gens d'aller chercher ces bouquins ou simplement de rencontrer ces pensées.
Suggestion de lecture pour les auditeurs quand ils seront allés chercher leur numéro. On retrouve donc dans ce dernier hors-série consacré à la résistance au nouveau fascisme une analyse de Blandine Doisan qui nous parle des chrétiens face à l'extrême droite, alors que des personnalités d'extrême droite se font les porte-voix d'un christianisme identitaire et que de plus en plus de croyants se laissent séduire, notamment aux États-Unis. De jeunes cathos de gauche réagissent, engagés pour la justice sociale et l'écologie. Ils veulent témoigner d'une autre vision de la foi. Bon, là, on a quand même un angle original que moi, j'ai pas. Là, je découvre le sujet, quoi.
Bah ouais, ouais, c'était une proposition de Blandine Doisan qui écrit régulièrement pour nous.
Elle est pigiste.
Elle est pigiste, tout à fait. Donc sur chaque numéro de Social Terre, évidemment, nous sommes que 3 journalistes salariés, donc nous n'écrivons pas seuls ces 148 pages. Là, il y a une quinzaine de journalistes qui ont travaillé sur le numéro. Et sur ce sujet, peut-être ça s'inscrit dans l'intention globale de ce numéro, c'est-à-dire d'aller au-delà du constat, c'est-à-dire les forces d'extrême droite sont puissantes et de plus en plus puissantes. Elles sont soutenues massivement par des gens très fortunés, par de grands capitalistes. En France, évidemment, Vincent Bolloré, Pierre-Édouard Serrin. Donc, elles ont une force de frappe croissante. Et néanmoins, nous, notre intention, c'était au-delà de ce constat, se dire, bon, qui s'organise, qui résiste aujourd'hui, à la fois sur le terrain, dans les médias, politiquement, fait un peu un état des lieux des forces et des ripostes face à cette situation politique extrêmement inquiétante.
On pourrait se demander où est l'écologie dans tout ça, en fait, en feuilletant, même si c'est pas le thème qui est annoncé en couverture. L'écologie est partout. Dans l'éditorial que vous signez, vous dites que notre horizon politique semble inexorablement se refermer. En France, le nouveau Front populaire est en lambeaux. La gauche et l'écologie de rupture sont diabolisées et les millions pleuvent sur les médias réactionnaires. Demain, ce qui nous reste de liberté publique, les droits de grève, d'association, de manifester, des jarronniers, pourraient se réduire drastiquement, tout comme les espaces d'expression et de penser hors du contrôle des oligarques. Il est donc aussi question d'écologie dans ce numéro.
Bien sûr, je pense qu'il est important de se dire que l'extrême droite, elle est l'ennemi évidemment des écologistes, et d'ailleurs elle a pris un tournant de plus en plus frontal. Alors on le voit aux États-Unis avec Trump qui sort à nouveau de l'accord de Paris et qui démantèle méthodiquement toutes les protections qui ont été mises en place aux États-Unis ces dernières années, qui rouvre des zones à l'exploitation fossile, qui rogne les budgets de toutes les agences censées protéger l'environnement. En France et en Europe, c'est pareil, les forces d'extrême droite ont pris ce tournant anti-écologique de manière de plus en plus virulente. Et par ailleurs, je pense qu'il faut avoir en tête que ces forces sont des forces autoritaires qui, demain, pourraient restreindre encore drastiquement les moyens d'expression, les moyens de manifestation. Bref, toutes les expressions vivantes de l'écologie militante aujourd'hui, elles sont potentiellement menacées par l'arrivée au pouvoir de ces gens, évidemment.
L'une des voix qu'il faut aller lire dans ce dernier hors-série, c'est celle d'Hugo Paillettà, qui est sociologue, qui rappelle bien, on pourrait avoir tendance à se dire, bon, la France et pas les États-Unis, à regarder ça d'un petit peu loin, qui rappelle que le fascisme, c'est un processus, et que le processus est en effet très avancé aux États-Unis, mais qu'il est également en cours chez nous. Dans ce hors-série, qui a retrouvé en kiosque, hors-série de printemps, c'est donc une forme de manuel que vous offrez aux lecteurs avec dedans des entretiens, des tutos, des jeux, des reportages, des enquêtes. Et c'est réalisé alors par Social Terre, mais également en partenariat avec d'autres médias indépendants, Blast, Street Press, j'en oublie un.
Et l'Observatoire des multinationales, dont Olivier Petitjean, qui est le coordinateur, signe un papier. Donc l'Observatoire des multinationales, il travaille sur, on va dire, les puissances d'argent. Donc il décrypte en profondeur l'origine de la fortune de Vincent Bolloré, de Sterrin, leurs liens, leurs réseaux. Donc voilà, c'est un éclairage à lire.
Donc c'est un numéro où on retrouve notamment Salomé Sacquet, qui est journaliste pour Blast. Est-ce que cette idée de collaborer, c'est nouveau pour vous ? Et est-ce que c'est pas là que réside aussi quand même peut-être de nouvelles façons de faire pour porter ces sujets-là de façon plus forte qu'en étant juste Social Terre, quoi ?
Alors, on est effectivement très très content d'avoir ces multiples partenariats sur ce numéro et d'avoir travaillé avec Salomé Sacquet, qui signe déjà depuis plusieurs années des chroniques dans nos pages. Évidemment que Salomé, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une voix qui porte, et elle nous a fait l'amitié de mettre un peu sa notoriété au service de ce projet. Et on espère effectivement sortir de la niche des gens qui nous connaissent déjà pour toucher un public plus large. C'est aussi ce qu'on essaye de faire avec l'objet qu'est Social Terre. C'est un objet illustré, c'est un objet qui se veut pop, qui se veut attirant et qui, on va dire, rompt un peu avec les codes de la presse de gauche plus classique, qui puisse susciter la curiosité chez des gens qui ne sont pas forcément de notre camp. Et voilà, et là, on a une super élue de Dugudus, dont on est très content.
Comment on va essayer de la décrire ? C'est inspiré, en effet, d'un dessin façon mode d'emploi, dans l'univers des arts martiaux.
Voilà.
Avec un personnage qui retourne, celui qui a un petit brassard rouge au bras, qui, si on regarde bien, fait un salut nazi, et qui a sa casquette MAGA tombée au sol.
Voilà, c'est un peu quelqu'un qui fait un hippon antifasciste, disons.
Dans ce numéro, on trouve aussi donc des tutos avec une dimension en fait très pragmatique et très concrète pour aller au-delà des constats et se demander ce qu'on fait pour résister au nouveau fascisme, y compris ici en France. Et on retrouve Lumire Laprès, elle est autrice, elle a signé il n'y a pas très longtemps un ouvrage qui s'appelle « Ces gens-là ». Elle est issue du milieu rural, si je ne dis pas de bêtises, donc a écrit un ouvrage. Et là, elle nous propose un tuto intitulé « Comment faire douter une électrice du RN ?» de façon non surplombante. C'est comme ça qu'elle le dit. Je trouvais ce regard, pour le coup, très concret. Est-ce qu'on peut en dire un mot ?
Ouais, bien sûr. Alors, je suis très contente de ce texte que Lumière signe dans ses pages. Je trouve qu'elle répond à une question que beaucoup de gens se posent, notamment dans les milieux ruraux où, malheureusement, l'attraction du RN est forte. Et dans certains endroits, le vote pour les forces d'extrême droite a tendance à se banaliser et à devenir finalement le sens commun. Lumière, elle raconte dans ce texte qu'une de ses meilleures amies d'enfance peut, à l'occasion, voter pour le RN. Pour autant, elle n'a pas coupé les ponts avec cette jeune femme et elle explique comment avoir un dialogue. Et évidemment, ne pas croire qu'on va retourner quelqu'un en une discussion magistrale, mais voilà, semer le doute, amener les gens à expliciter les raisons de leur colère et les faire douter des personnes à qui ils attribuent les causes de leur malheur. Je vous laisserai lire ce texte plutôt que de mal le résumer, mais je trouve que c'est une des entrées très fortes de ce numéro et je pense que si vous êtes concerné dans votre entourage ou si vous avez des amis, des proches qui sont tentés ou imprégnés par les thèses de l'extrême droite, qui ont tendance à regarder un peu trop ces news, je pense que c'est une bonne manière de savoir comment ouvrir le dialogue et
rester en lien,
pas rompre les ponts et faire douter les gens.
Donc les différentes étapes, même si on laissera la lecture de l'article aux auditeurs, mais laisser parler vraiment, reformuler pour révéler les valeurs communes, rediriger la colère sans humilier et garder une place dans le nous. Voilà, des bons conseils qu'on devrait tous sans doute suivre. Est-ce que j'oublie des choses ?
Peut-être si je peux dire deux mots de certains papiers dont on est très content. On a un entretien avec un historien qui s'appelle Mark Bray, qui est un historien américain de l'antifascisme. Et il se trouve qu'il a reçu énormément de menaces de mort aux États-Unis à cause de son travail, à tel point qu'il a décidé de s'exiler à l'automne dernier en Espagne. Et donc, il nous raconte un peu pourquoi ce choix et qu'est-ce que c'est de vivre dans l'Amérique de Trump quand on s'intéresse à l'antifascisme de près. Et autre chose, par exemple sur les résistances, on a aussi sollicité le collectif Sleeping Giant, qui est un collectif d'internautes, vintage, un collectif de militants en ligne qui luttent contre la haine en ligne. Et en fait, leur technique, c'est tout simplement d'avertir les annonceurs qui parfois ont des publicités, des bandeaux publicitaires qui vont sur les sites de la fachosphère, en fait, de rendre public le fait qu'ils, par leur publicité, ils financent ces sites. Et très souvent, ça aboutit au retrait de ces publicités et donc à tarir les financements de ces sites qui banalisent des affects haineux. Et donc voilà.
On retrouve aussi des voix que vous avez sans doute déjà croisées. Hugo Payetta, je l'ai déjà cité. La militante et politologue Fatima Ouassak, très engagée sur les questions d'écologie décoloniale. Ou encore le journaliste Edoui Plenel, fondateur de Mediapart. Ce numéro, ce nouveau hors-série de Social Terre, nous parle donc des résistances au nouveau fascisme. On le trouve en kiosque à plein d'endroits. Plus de 140 pages et son prix est de 19 euros. Merci beaucoup Elsa Gauthier.
Merci à vous et à Canal B de nous avoir reçus.
Alors lors de cet échange avec Elsa Gauthier, on s'est concentré sur le hors-série de printemps, mais Social Terre ne chôme pas et a sorti le 17 février son numéro 74 pour les mois donc de février et mars. Qui paye le prix des pollutions ? C'est le thème, la question abordée dans ce nouveau numéro, carrément vert des terres. et avec un écho particulier alors que la loi Duplon, dans sa deuxième version, est de retour à l'Assemblée nationale. Santé, environnement, égalité, autant de facettes explorées par Social Terre à travers des entretiens avec Fleur Breteau de Cancer Colère, un petit toxic tour nos régions du talent, mais aussi des enquêtes, par exemple, sur la décharge industrielle à Montchanin en Saône-et-Loire. On y retrouve également de la bande dessinée et tout plein de recommandations de ressources. C'est à retrouver en kiosque dès maintenant.
Benito, hijo de Benito, le decían Tito, el mayor de seis trabajando desde chamaquito, guiando camiones como el pai y el abuelo. Aunque su sueño siempre fue ser ingeniero, un día Tonito lo invitó para hacer una mudanza, para buscarse alguito, par de pesos, pa' algo alcanza. Gracias a Dios que ese día no estaba bici, porque en la mudanza fue donde conoció a Lizy, la menor de tres que se criaron con doña Juanita, porque su papá y mamá partieron estando chiquita. Prometió graduarse antes de casarse y lo cumplió diciembre del 9-2. Con Tito se casó antes de irse para el Mirante, donde se conocieron, vivieron en Morovis, en donde hicieron al nene, que en Bayamón por primera vez vieron. Un aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron. El mejor de la nueva porque me crié en la vieja. Gracias a mami y papi por todos los alonorea. Nunca me han visto en la calle ni en los podcast ando quea. Tratan de medir fuerza y no pueden ni en pareja. Calle sol, calle luna, estrella en la noche oscura. Yo no canto reggae, pero soy cultura de Borinco en PR. Archipiélago perfecto, en el mundo entero ya conocen mi dialecto, mi helga. A mí me importa un bicho lo que a ti te vale verga. Aquí mataron gente por sacar la bandera. Por eso es que ahora yo la llevo donde quiera. Cabrón, ¿qué fue? Está peligroso. Si mañana muero, yo espero que nunca olviden mi rostro y pongan un tema mío el día que traigan a Otto. En la caja la bandera azul clarito y que recuerden que siempre fui yo, siempre fui Benito. Meterle más que yo, tú eres loco. Cabrón, tú eres loco. Lo que tú digas, me importa poco. A mí me quieren como a ti, estoy sincero como Coto. Lugia, oh, oh. Cabrón, yo soy legendario. Le meto con cojones y con ovario. Millonario sin dejar de ser del barrio. Pa' que sepa. Aprieta, chamaquito, aprieta. De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo. Dile que esta es mi casa, donde nació mi abuelo. De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo. Dile que esta es mi casa, donde nació mi abuelo. Yo soy de Pepo Quijere. Yo soy de Pepo Quijere.
Vous écoutez Vers des Terres sur Canal B, Radio Boa ou en podcast, peut-être sur Deezer. Et c'était La Mudanza par Bad Bunny. Mais oui, Bad Bunny sur Canal B. Le musicien et chanteur portoricain a fait sensation à la mi-temps du Super Bowl de l'autre côté de l'Atlantique au début du mois. Et si je ne suis pas très branché football américain, alors par contre, je suis pas mal emballé par l'idée de résistance culturelle. C'est ce que Bad Bunny nous a proposé ce soir-là. Le titre que vous avez entendu est extrait de l'album Debitirar Mas Fotos, qui est sorti en 2025, le sixième disque pour ce chanteur et musicien. Vers des Terres peut maintenant se poursuivre et on va continuer à parler médias indépendants et écologie avec une journaliste qui a la particularité de travailler à la pige, c'est-à-dire à l'article. Chloé Richard, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes journaliste indépendante, pigiste pour plusieurs titres, on va y revenir dans un instant, mais vous travaillez notamment pour ce média d'investigation indépendant et breton qui s'appelle Splan, dont on met régulièrement en lumière le travail sur les ondes de Canal B. J'aimerais commencer par vous demander un petit peu de nous raconter comment vous vous êtes formé au métier de journaliste, quand est-ce que ça a eu lieu, bref, de vous présenter un petit peu plus.
Comment je suis devenue journaliste? Disons que c'est une idée qui m'a toujours un peu trotté dans la tête. Déjà au lycée ou au collège, c'est un métier qui m'intéressait. Mais je n'ai pas osé tout de suite me lancer dedans parce que ça m'apparaissait trop sélectif et précaire. Donc j'ai d'abord fait des études en communication et en sciences politiques. Et finalement, j'avais envie de faire du journalisme. C'était toujours quelque chose qui restait dans un coin de ma tête. Donc j'ai fait un master en journalisme. Plus ensuite un master en journalisme sur les questions climatiques entre le SJ Lille et Versailles. Mon dernier diplôme, je l'ai eu en fin 2019, juste avant le Covid. De là, j'ai pas mal travaillé en presse locale, puis je suis allée faire un tour en Turquie après le confinement, puis je suis revenue en Bretagne où j'ai grandi. J'ai refait des contrats, des CDD en presse locale et depuis 2022, je suis pleinement pigiste.
Est-ce que vous aviez un ou des modèles de journalistes en tête qui vous ont donné envie de faire ce métier ?
Pas vraiment.
Ou des médias que vous lisiez ?
Bah, je lisais pas mal la presse locale parce que j'ai grandi avec ces journaux, Ouest France ou le Télégramme, sur la table avec le café le dimanche chez mes grands-parents. Mais sinon, j'ai très vite, quand ça s'est créé, j'ai beaucoup aimé le travail de reporter. Mediapart aussi beaucoup. Et quand j'ai fait un peu de pige en Turquie, mais avant ça j'avais fait un Erasmus, et je sais que quand j'étais en Erasmus en Turquie, les correspondants pour les médias nationaux français qui étaient à Istanbul, je suivais beaucoup leur travail, et je sais que j'aimais beaucoup notamment les papiers de Nicolas Cheviron pour Mediapart depuis Istanbul, et le travail aussi d'Inès Leroux. Je me rappelle quand le journal breton est sorti sur France Culture avec des copines du Trégor, où on a grandi, quoi, en Bretagne. On était assez émus qu'une histoire pareille sorte et dans les médias nationaux, et qu'on mette un peu plus au jour ce qui se passe autour de l'agro-industrie. C'était quelque chose, genre, en tout cas, je me souviens que c'est quelque chose qui m'avait marqué. C'était juste avant que je fasse mes études de journalisme. Et on était là, on parle de Pabu dans France Culture. Enfin, c'était assez. Il y avait quelque chose d'émouvant, je me souviens.
Est-ce que dans la découverte du métier, et donc jusqu'à ce que vous deveniez pigiste à plein temps en 2022, il y a des choses qui vous ont surprise entre l'idée que vous vous faisiez du métier et ce que vous avez découvert sur le terrain ?
Oui, je pense que j'ai un peu idéalisé. Je veux dire, surtout quand j'ai travaillé en presse locale, les sujets que j'ai envie de traiter et ce que j'arrive à traiter pour plein de facteurs, notamment j'ai l'organisation de travail, on est à flux tendu tout le temps, il faut remplir des pages, on n'a pas le temps de faire des enquêtes, et un rapport aux sources qui est un peu compliqué parce qu'on est dans des petites rédactions locales sur des territoires assez restreints avec un rapport aux sources, avec une forte proximité, on va dire, avec les sources, et ça peut être difficile de faire des sujets qui dérangent. Parce que du jour au lendemain, on pourrait avoir une mairie, par exemple, qui refuse de nous parler, et du coup, on aurait du mal à remplir nos pages. Ça, c'est un truc un peu particulier. Il y a un côté un peu journalisme de préfecture aussi qui m'a pas mal frustrée, où j'avais l'impression que j'apportais pas assez d'informations aux lecteurs. Et une autocensure en interne aussi que j'ai constatée, et quelques fois où c'est arrivé qu'il y ait une sorte de, pas d'ingérence, mais où j'ai eu des chefs qui voulaient pas que je fasse tel ou tel papier pour pas déranger, ou pour pas, je cite, avoir des agriculteurs à notre porte. Donc, j'ai vu qu'il y avait 1 milliard de sujets à faire, que tous n'étaient pas faisables pour différentes raisons. Mais du coup, oui, j'ai eu pas mal de frustration avec ça. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec du coup, le Média Splan, pour qui j'écris régulièrement, c'est qu'il y a un boulevard de sujets à faire que d'autres médias ne font pas. C'est là où je trouve qu'il y a une sorte de... Le côté sens au travail est assez prononcé ici, quoi.
On peut peut-être citer les différents médias pour lesquels vous travaillez aujourd'hui. Donc il y a Splan en Bretagne, oui. Reporter, Politis, oui. J'ai noté Alternative économique, est-ce que j'en oublie ?
Politis et Alternative économique, c'était il y a quelques années déjà maintenant, et c'était un ou deux papiers par-ci par-là. Sinon, c'est pas vraiment lié à l'écologie, mais je travaille aussi pour Beau Magazine, La Vie, pour qui j'écris aussi La Vie, j'écris des papiers écologie. Mais c'est moins des sujets locaux, c'est plus, je sais pas, il y a le plan Ecophyto qui est annoncé, il faut un papier de réaction et d'analyse pour les lecteurs, et puis je veux faire ce type de papier-là, quoi.
Donc La Vie, pour les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas, c'est un site chrétien d'actualité.
C'est Média Généraliste avec un branche christianisme social et ça appartient au groupe Le Monde. Auparavant, je crois que ça s'appelait La Vie Catholique, il me semble, si je dis pas de bêtises.
Ça a été difficile de parvenir à vivre à plein temps du pigisme et de trouver des titres avec qui collaborer régulièrement ?
Oui, notamment pour une raison, et c'était une des premières choses qui nous a été dite quand on est rentré du coup en master en journalisme, quand je faisais mes études, c'était à Bruxelles. Notre prof nous avait dit, c'était une Française, on était beaucoup de Français dans ce master, ce qui compte le plus en journalisme, c'est pas les idées, c'est pas de savoir bien écrire, c'est le carnet d'adresses, et c'est assez vrai. Les premières piches que j'ai vendues, c'était ou dans des médias où j'avais fait des stages avant, ou par le classeur d'alumni d'anciens élèves de l'école où j'étais, ou par juste un ami d'ami, enfin on cherche un peu du réseau. C'était par réseau que j'avais réussi à rentrer, quoi. Et le fait d'être en Bretagne, et moi je suis pas à Rennes, je suis dans une zone rurale, dans le Finistère, c'est plus difficile d'être identifié par des rédactions et de vendre des sujets. Surtout qu'il me semble que la Bretagne, c'est la région de France où il y a le plus de journalistes. Bon, il y a un fort maillage territorial au niveau de la presse locale avec Ouest France et le Télégramme, mais il y a aussi France Bleu ou ici ou France 3, mais il y a aussi énormément de pigistes. C'est assez dense et du coup non, ça a été difficile. Ça fait du coup depuis fin 2022 que je fais de la pige à temps plein et je gagne ma vie, je gagne pas énormément, mais disons que j'ai plus besoin de toucher à mon chômage depuis un an.
On peut imaginer que la spécialisation, donc vous plutôt sur les sujets environnementaux et agricoles, c'est une façon de se démarquer et justement de se construire un réseau de médias avec qui on travaille. Cette spécialisation-là, elle est, comment vous l'expliquez ? C'est lié à votre parcours de vie, à des intérêts particuliers ?
Je dirais que j'ai un peu un tropisme naturel pour les questions environnementales de base. C'est aussi des questions qui, en tout cas dans la presse indépendante, trouvent de plus en plus de place dans un contexte où la presse indépendante se développe. Moi, de base, globalement, mes sujets de prédilection, c'est tout ce qui est un peu breton, quoi, la Bretagne, et qui peut avoir un intérêt national. Faire des sujets sur l'éducation. On a fait les lycées agricoles avec Splend, mais juste même sur l'enseignement en Bretagne, c'est pas que ça me dérangerait pas, mais j'en suis capable également. Mais j'allais dire, c'est très dense, en fait, niveau journalisme, la Bretagne. Les médias nationaux ont tous déjà leurs correspondants, et du coup, il y a des sujets qui sont plus difficiles à vendre, alors que, par exemple, pour les questions environnementales, je trouve qu'il y a plus de place. En tout cas, c'est là que j'ai réussi à me faire ma place. Ce n'est pas juste opportuniste, ce n'est même pas opportuniste. Je pense que j'ai un tropisme de base dans ça. Dans mon quotidien, j'habite dans une ferme. J'ai grandi en zone rurale. Enfin, c'est des questions qui m'habitent, on va dire, des sujets qui m'habitent depuis toujours. Et enfin, aujourd'hui, si je les traite, c'est assez cohérent, on va dire, par rapport à mon parcours, à mon mode de vie personnel, à ce qui m'intéresse. C'est des sujets qui m'apparaissent, entre guillemets, faciles à traiter. Je n'ai pas besoin de décortiquer longtemps avant de me plonger dans un sujet. Je cerne assez rapidement, on va dire,
les différents
enjeux. Les tenants et aboutissants. Voilà, c'est ça.
Au mois de janvier, on a pu vous lire, par exemple, sur le site Reporter, donc dédié aux questions environnementales, avec, par exemple, cet article intitulé « ENAF, derrière le label « Produit en Bretagne, du bœuf d'Amérique du Sud ». C'est un article qu'on peut toujours lire en ligne. Je me demandais quelles étaient, finalement, les étapes pour aller d'une idée jusqu'à l'article publié. Est-ce que ça peut prendre beaucoup de temps ? Et est-ce que, parfois même, ça peut finir à la poubelle ?
Alors, il y a différentes étapes. Ça dépend des sujets. Là, par exemple, c'était un sujet d'actualité chaude. Où il fallait réagir vite. Il me semble que, je ne sais plus à quelle date exactement c'était cette manifestation, mais on l'a appris le matin même ou la veille au soir. Et en fait, j'envoie un mail à la rédaction. Je sais qui est à la rédaction en chef cette semaine-là. S'il faut, j'envoie un SMS. Et j'ai dû envoyer le mail à 10h du matin et à 11h, on m'a appelé en me disant « il faut que tu ailles le faire ». Et à midi, j'étais sur place. Mais donc là, ça va très très vite. Et je savais que c'était un sujet qui, on va dire, qui pouvait potentiellement mordre parce que je connais aussi le fonctionnement en interne à Reporter. Je suis assez intégrée, on va dire, dans l'équipe, malgré la distance géographique. Il y a des sujets, j'allais dire, au jour le jour, bah, il faut lire la presse locale tous les jours, que ce soit l'Ouest France, le Télégramme, les radios locales ou la télé locale, suivre ce qui se passe, avoir un réseau aussi de sources sur certains sujets qui ne sont pas traités localement. Là, on peut voir des sujets en se disant « Ah, ça, c'est un sujet un peu plus froid, ou ça peut attendre une, deux semaines, donc on va proposer à une rédaction qui se réunit une fois par semaine, là, pour proposer des sujets un peu plus approfondis, on appelle ça plus des sujets magazines. Et après, il y a des sujets qu'on essaye de vendre malgré tout et qui ne sont pas vendus parce qu'on peut estimer qu'il y a des carences médiatiques sur certains sujets. parce qu'il n'y a pas de débouché. On est déjà beaucoup de journalistes. Par exemple, en Bretagne, je ne peux pas prendre la place de quelqu'un d'autre ou essayer de le griller sur un sujet. Enfin, il y a une question aussi de respect du travail des autres, quoi, de ne pas trop se marcher sur les plates-bandes, parce qu'on est à moitié indépendant, quoi, on est pigiste, mais on a aussi un statut où on est en CDI, en fait, auprès des rédactions. On est comme des salariés. Et du coup, c'est un peu hybride. Et la fidélité que les médias nous accordent, ce n'est pas légalement encadré. Et si j'ai des sujets qui pourraient aller dans un média qui est déjà pris par un confrère ou une consoeur, je n'irai pas sans le ou la consulter. Donc parfois, il y a des sujets, pour les médias pour qui je travaille, ils ne pourraient pas rentrer dedans parce que ça ne correspond pas à la ligne éditoriale. Et du coup, on n'arrive pas à les vendre. Et d'autres sujets, c'est plus parce qu'il y a peut-être parfois un manque d'écoute de la part de certaines rédactions qui sont loin du territoire et qui ne satisfont pas assez les enjeux. Je sais que ça a été le cas pendant longtemps, du coup, pour l'histoire des algues vertes, où Inès Léraud a mis énormément de temps à trouver des rédactions et finalement une maison d'édition pour traiter vraiment en profondeur le sujet. Et finalement, c'est devenu une BD à succès, il y a eu un film derrière. Mais du coup, il y a des sujets parfois qui peuvent tomber à l'eau, mais ça dépend de la temporalité. Il y a des sujets d'actu chaud, des sujets un peu plus froids, magazine, et des sujets au long cours d'enquête. Ceux-ci sont les plus difficiles à vendre, en vrai. Et ils sont, quand on est pigiste, ce n'est pas toujours les plus rentables, donc ça peut être difficile aussi de mener à bout juste une pré-enquête.
On rappelle qu'Inès Léraud est donc journaliste, l'une des fondatrices de ce média d'investigation breton Splend. Elle en est toujours membre. Elle a écrit la BD à succès Algues Vertes et puis aussi des séries de reportages qu'on peut retrouver du côté de Radio France sur le modèle agroalimentaire breton. Justement, pour revenir à Splend, à l'automne, vous avez écrit un article sur le sujet des paysans au RSA, le revenu de solidarité active, qui se trouve être dans le viseur du département dans le Finistère. Pour le coup, là, je crois que Splend était le premier média à informer sur ce sujet-là. Il y avait vraiment un peu une mission de lanceur d'alerte, lanceuse d'alerte en l'occurrence.
Alors nous, on a eu un angle vraiment sur les paysans. Pour ça, Splend était le premier à en parler. Donc, vraiment ceux qui ont des petites structures agricoles et qui sont donc rattachés au département pour leurs allocations et non à la MSA. Mais Libé avait déjà fait un papier cet été sur globalement les contrôles RSA en Finistère. Au niveau national, ça se sait qu'il y a des contrôles assez massifs et intrusifs, avec une quantité de documents qui sont demandés aux allocataires. Et nous, à Splend, on a eu la spécificité, on va dire, de parler, d'avoir vraiment un angle paysan, parce que du coup, leur statut est un peu particulier. En gros, sans rentrer trop dans les détails administratifs, quand on est agriculteur, il y a deux types de modèles, on va dire, social d'entreprise. C'est où on est à titre principal, et donc rattaché à la MSA, et où on cotise, où on est cotisant solidaire, et pour ces allocations, là, c'est pas la MSA qui gère, mais c'est la CAF est rattachée au département. Et depuis quelques années, le président du département du Finistère a lancé son plan RSA, avec énormément de contrôles, et notamment des contrôles qui visent des paysans, donc souvent des gens qui ont des toutes petites structures, qui commencent à lancer leur entreprise agricole, et qui ont besoin d'un revenu d'appoint pour se lancer. Et ces gens-là, en fait, se retrouvent du coup dans un processus de contrôle de leurs allocations et de leur mode de vie, à devoir justifier chaque ligne sur leur compte bancaire, très intrusif, très lourd à gérer aussi humainement, psychologiquement, et un peu kafkaïen, parce que même si ces gens ont le RSA, ces gens sont déjà actifs et malgré tout se retrouvent à subir ce genre de contrôle et aussi à être dans un processus de retour vers l'emploi, avec des entretiens avec des coachs liés à France Travail qui sont complètement détachés de la réalité du métier.
Vous avez donc rencontré plusieurs agriculteurs et agricultrices bio installés dans le Finistère qui vous ont raconté en fait ces pressions pour pouvoir toucher le RSA, le revenu de solidarité active. C'est combien d'agriculteurs, agricultrices que vous avez rencontrés ?
J'ai dû avoir facilement une quinzaine ou une vingtaine de témoignages. Et j'ai dû en citer 5 ou 6, parce qu'on ne peut pas tout mettre, quoi, mais tout concordait. Enfin, c'était vraiment à chaque fois la même façon d'opérer, la même panique aussi pour ces gens-là, parce que c'est un travail énorme de fournir. Mais vraiment, il y a vraiment des dizaines de pages, parfois des centaines de pages de documents administratifs à fournir, des attestations à demander à des proches qui nous ont fait un virement, je ne sais pas, pour les naissances de notre enfant ou quelque chose comme ça, qui doivent le justifier. C'est une charge mentale énorme pour des gens qui déjà travaillent énormément d'heures par semaine. Et du coup, oui, c'était un papier où il n'y avait vraiment aucune difficulté à avoir des sources.
Donc on peut toujours retrouver cet article en ligne dans lequel on découvre en fait une vraie entrave à ce qui reste un droit pour ces agriculteurs et agricultrices. Il faut expliquer que ce sujet, il vous a valu d'être médiatisé au-delà de la Bretagne parce qu'en fait, le département du Finistère vous a, vous, journaliste, empêché l'accès à ce qui était une réunion plutôt en direction du patronat, mais à laquelle assistaient pourtant d'autres journalistes. Et ça, ça a eu de l'écho hors de la région. On peut peut-être en redire un mot.
Oui, oui, c'était assez particulier avec mon collègue, du coup, Christine Falleron. On aimerait donner une suite, et on va donner une suite au sujet RSA, et on voulait aller couvrir cette soirée, ou en tout cas prendre des notes pour suivre le sujet au long cours. C'est quelque chose qui se fait quand on est journaliste. Parfois, on envoie un mail directement pour avoir une interview avec une personne, et sinon, il y a des événements autour de nous auxquels on veut assister pour une veille ou juste accumuler des données. Et donc, il y avait cette soirée bilan du plan RSA devant le patronat local à Armor-Lux à Quimper, c'était début décembre, et on a voulu y aller, lui et moi, on s'était préinscrit, et le soir, quand on est arrivé, on nous a refusé l'entrée, alors que sur la table à l'entrée, il y avait deux types de feuilles d'émargement, une pour le patronat local, une autre pour la presse, avec les noms de nos confrères et consoeurs du West France et du Telegram qui étaient rentrés et qui avaient validé leur entrée, et moi, il y a du coup quelqu'un qui s'est planté devant moi, pour vraiment me barrer le passage et me dire non, désolé, la presse est pas, ne peut pas rentrer. Et sous mes yeux, j'avais une feuille d'émargement et je demandais mais qu'est-ce qu'eux font là. Et on me répondait qu'ils étaient là en tant que patrons. Sauf que c'était pas des patrons, c'était des journalistes qui étaient là. Tristan, lui, a été brutalisé par un vigile parce qu'il voulait faire des prises de vue. Et de là, la rédaction Explan, on a réagi. Il y a un courrier qui a été envoyé à Maël de Calan,
le président du département.
Le président du département pour dénoncer ce qui est en fait une entrave à la liberté d'informer. Et qui était un peu inédite de cette manière-là pour se plaindre. Et de là, en fait, il y a eu un buzz, ça a eu un écho. Et je pense que la campagne de dons de se plaindre, qui réclamait 50 000 euros de soutien en décembre, est montée à 153 000 euros de dons, est en partie liée à tout le bruit qu'il y a eu autour de cette soirée où on a été refusé après un papier qu'on a fait sur le bilan RSA. Moi, ce qui m'a un peu surprise là-dedans, c'est que oui, le papier est à charge vis-à-vis du département parce qu'on remet en question la façon dont les contrôles sont menés. Mais ce n'est pas non plus l'affaire du siècle. Et nous refuser comme ça un événement, c'était un peu alarmant. Et c'est aussi globalement un mauvais signe pour on va dire, la liberté d'informer.
On précise que dans la foulée, donc Maël de Calan, le président du département, a qualifié ce plan de, je cite, « bloc d'extrême gauche qui multiplie les attaques politiciennes ». Donc en effet, avec des questions quand même sur le regard sur ce qui est un organe démocratique, la presse, pour parler des sujets sur lesquels on doit avancer en démocratie. Le même jour là, de cette réunion que vous évoquez, il y avait aussi une mobilisation de la CGT et puis de collectifs de chômeurs et de précaires qui a fait l'objet d'un dispositif important de maintien de l'ordre, donc avec une ambiance assez curieuse que vous avez racontée dans des articles à retrouver en ligne sur splend.org. On dit c'est un média qu'on peut soutenir, il y a une campagne de dons, mais voilà, au long cours on peut vous soutenir si on aime vous lire, puisque tous les articles sont accessibles librement en ligne. On peut imaginer un travail parfois solitaire quand on est journaliste pigiste. Est-ce que c'est le cas? Mais est-ce que peut-être quand on est dans des médias indépendants, comme c'est le cas pour vous, avec Splend et avec d'autres, il y a peut-être des dispositifs qui justement permettent de ramener du collectif dans les processus de travail et d'écriture?
Je sais qu'à Splend, déjà, il y a une proximité géographique. La rédaction est installée dans les Côtes d'Armor. Et par exemple, quand il y a eu cette crise suite à la soirée RSA, à Splend, il y a eu tout de suite une sorte de protocole mis en place pour que Christiane et moi on soit accompagnés. On s'assurait qu'on allait bien, parce qu'en fait, on passe de « on veut juste aller courir une soirée » à « notre nom est affiché partout, on nous demande des interviews partout, on est hyper sollicité, il faut réagir et il y a des attaques qui sont faites, on est cité tout le temps par le département, l'opposition du département réagit, enfin vraiment, il y a toute une bulle qui se crée. Et je sais que à ce plan, mais ça fait aussi partie de l'identité du média, un esprit d'équipe assez fort, qu'on retrouve pas tout le temps quand on est pigiste. Il y a des rédactions où c'est vrai qu'on est vraiment plus prestataire et on fait un papier. C'est pas le cas à Splend ni à Reporter où je travaille régulièrement, par exemple. Il y a une attention qui est portée sur comment est-ce qu'on se porte. En période de crise comme ça, on est accompagné, on va dire, entre guillemets, les administrateurs et l'équipe fait attention à ce que tout le monde aille bien. parce qu'on sait déjà en fait que avant nous, il y a eu Morgan Large ou Inès Leroux qui ont subi des pressions beaucoup plus graves que nous, ce qu'on a subi pour le RSA, et elles étaient plutôt seules. Ce plan est né d'un collectif de soutien envers ces journalistes. D'abord, ça s'appelait Kelawin, si je ne dis pas de bêtises, si je prononce bien. Il y a un esprit d'équipe qui est présent et qui est important et qui n'est pas toujours le cas quand on est pigiste. Parce que je sais que ça m'est arrivé pour d'autres médias de couvrir des sujets, par exemple, liés à l'extrême droite, où c'est quand même tout de suite un peu stressant et il n'y avait pas d'encadrement particulier ou de prise de conscience de c'est lourd de couvrir ces sujets-là. On sait toujours qu'il y a un risque. Mais là, non, depuis que je travaille à Splend, c'est quelque chose qui me surprend et que je trouve très agréable en tant que pigiste. C'est le côté esprit d'équipe qui est assez important, mais c'est aussi lié entre la proximité géographique et l'organisation interne du média. Ça reste une petite équipe aussi. Du coup, il y a des médias, c'est des grosses machines, donc c'est plus dur de prendre le temps, je pense, de...
De travailler sur des questions relationnelles et humaines, quoi.
C'est ça, oui.
On termine en racontant le prochain sujet sur lequel vous travaillez et qui est un sujet que vous avez déjà, on va dire, défriché à plusieurs reprises pour Splend.
Oui, pendant plusieurs mois l'année dernière avec Faustine Sternberg, qui elle fait partie de la rédaction permanente de Splend, on a enquêté sur les lycées agricoles en Bretagne. On avait sorti 4 papiers. Un sur l'omniprésence de l'agro-industrie dans les conseils d'administration des lycées, un sur l'agroécologie et les réticences liées à l'agroécologie dans les lycées agricoles, un autre sur les généreuses subventions régionales envers l'enseignement privé agricole, et un papier sur The Land, qui est basé à Rennes, et un campus va avoir le jour à Vitré, et sur le déficit alarmant... De cette école, enfin, c'est un mélange d'écoles supérieures privées et de lycées. Donc il y avait un problème de déficit dans ce campus et de management décrié. On a fait un papier là-dessus. Après notre papier, le ministère de l'Agriculture a annoncé le divorce, donc la séparation entre les lycées agricoles historiques de Rennes et les écoles supérieures privées de The Land. Aujourd'hui, The Land a été renommé en The Land School of Management. Et depuis la sortie de notre papier, fin octobre, nous, on a reçu des nouveaux documents à la rédaction de Splend qui nous permettent de faire une nouvelle enquête sur The Land et notamment sur les financements.
Donc tout ça, c'est à retrouver en ligne sur splend.org et où on le comprend, la presse a quand même, en tout cas indépendante, un pouvoir transformateur à travers les différents exemples qu'on a pu citer. Merci beaucoup Chloé Richard.
Merci à vous.
Around, common ground, common ground.
Vous écoutez Vers des Terres sur Canal B, Radio Boa ou en podcast. À l'instant, Tessa Rose Jackson avec le morceau Fear Bangs the Drum. C'est une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann, le programmateur musical de Canal B, extrait d'un album intitulé The Lighthouse qui est sorti au mois de janvier sur un petit label écossais qui s'appelle Tiny Tiger Records. C'est le premier album que la chanteuse et musicienne néerlando-britannique sort en son nom, puisqu'elle a travaillé avant ça 10 ans sous le nom Someone. Elle sera, tiens, sur la scène de l'Archipel à Paris le 20 mars prochain pour les auditeurs qui nous écoutent et qui y passent régulièrement par la capitale. On arrive à la fin de l'émission et il nous reste assez de temps pour une recommandation. Allez, deux, comme vous avez été sage derrière vos transistors, là je vous imagine bien concentré. D'abord, il y a cette interview signée Hervé Kampf, qui est le journaliste et fondateur de Reporter, média de l'écologie, encore un média indépendant, qui tend le micro pendant une heure à Fleur Breteau du collectif Cancer Colère. On a cité son nom un petit peu plus tôt dans l'émission. Dans ce collectif, on retrouve des citoyens, pour certains directement concernés par la maladie, et qui mènent un double combat. Politiser le cancer, attaquer ses causes. Extrait du podcast que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur la chaîne YouTube de Reporter.
La deuxième information qui m'a bouleversée, c'est d'apprendre que ceux qui fabriquent les pesticides fabriquent aussi des traitements contre le cancer. Et je me suis dit, mais dans ces cas-là, comment on va faire pour guérir? On tombe malade de plus en plus. Et quand on tombe malade, nos corps rapportent de l'argent. Et ça détruit la sécurité sociale, puisque le premier poste de dépenses de l'assurance maladie, c'est le cancer.
Et la deuxième recommandation, comme promis, c'est un événement à vivre en vrai, en présentiel. Les 11 et 12 avril prochains, la Paillette à Rennes, c'est un théâtre, va accueillir la première édition du FMI. Pas le Fonds monétaire international, mais non, c'est le Festival des médias indés, c'est plus excitant quand même. Deux jours imaginés avec le Fonds pour une presse libre, pour défendre la liberté d'informer et la presse indépendante. Il y a plein de titres qu'on aime qui sont attendus, Arrêt sur image, Basta, Mediapart, Reporter, Disclose, Fakir, La Déferlante ou encore Socialterre, dont on a reçu la rédac chef en début d'émission. Le programme complet est encore à venir, il est retrouvé sur le site la-paillette.net, mais on nous promet déjà un village de 50 médias indépendants, plus de 100 journalistes sur place, 40 rencontres publiques, des espaces d'échange, etc., etc. On note tout ça dans son agenda. C'était le cinquième épisode de Vers des Terres. J'espère qu'il vous a plu. Vers des Terres, c'est une émission à écouter chaque mois sur Canal B, Radio Boa, à l'échelle de la Bretagne, mais aussi en podcast sur Deezer. On se retrouve au mois de mars, le vendredi 20 à 13h pour ce qui est de la diffusion rennaise du côté de Canal B. D'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous envers et contre tout. Salut.